Je te donne tout de suite la parole, donc Thomas Perroux.
Alors, donc je parlerai d'un cas particulier qui, à mon sens, questionne la neutralité du Conseil constitutionnel, à savoir son rôle et le rôle des portes étroites devant cette juridiction. Nous vivons en effet dans un pays dont les élites ne cessent de revendiquer, dans lequel les élites ne cessent de revendiquer une certaine forme de neutralité. Jean Tirole, l'année dernière, a pu affirmer que l'économie est, je cite, neutre, fin de citation, sic. Et les idéologies dominantes dans les sciences sociales, notamment en droit comme en sciences politiques, revendiquent clairement et toujours cette neutralité. Ma position, évidemment, est que cette neutralité est un leurre, mais que peut-être ce que j'aimerais essayer de démontrer, c'est que non seulement c'est un leurre, mais qu'en plus elle est peut-être dangereuse et qu'en allant vers moins de neutralité, on arrivera peut-être vers un contrôle plus efficace de nos juridictions. J'ai commencé à m'intéresser à cette question des portes étroites justement par le constat de l'absence de neutralité du juge constitutionnel vis-à-vis de certains intérêts privés. Dans un entretien que j'ai pu avoir avec l'actuel secrétaire général, il ne s'est pas caché de la volonté du Conseil de continuer une jurisprudence clairement libérale, mais qu'on voyait parfaitement dans sa production. Dans ce sens, le juge, mais comme tout juge d'ailleurs, évidemment, n'est pas neutre, il mène, et il l'affirme, une politique favorable à la liberté et donc susceptible de l'emporter sur les intérêts généraux poursuivis par le législateur. Mais la question des portes étroites face devant le Conseil constitutionnel pose une autre question de neutralité. Car une fois dit que le juge a une politique, et il a une politique, encore faut-il qu'il soit parfaitement cohérent dans cette politique et qu'il place l'ensemble des intérêts identiques sur le même plan, sur un même pied d'égalité. Or, dans cette tendance libérale, le Conseil pourrait être amené à sélectionner certains intérêts particuliers qui mériteraient, selon lui, davantage de protection. Et c'est peut-être ce qui est le plus gênant avec les portes étroites, c'est justement la faveur accordée à certains intérêts plutôt qu'à d'autres. Une jurisprudence de faveur, en d'autres termes. L'audiovisuel, les assurances ont ainsi la faveur du juge. C'est donc dans deux sens que l'on peut dire que le juge n'est pas neutre. Mais la question de la neutralité peut se poser de façon aussi différente, dans le sens où on a une neutralité effective, on pourrait avoir une neutralité effective, mais aussi une question de neutralité apparente, comme on l'a déjà évoqué. Autrement dit, si le juge n'est pas neutre, il doit en tout cas en donner l'apparence, selon le célèbre adage de common law, auquel la Cour européenne des droits de l'homme a récemment donné toute sa portée. Or, c'est précisément là que le bât blesse avec les portes étroites. L'absence de publicité qui les entoure suscite évidemment une suspicion tout à fait légitime. Le livre de Jean-Louis Debré d'ailleurs l'atteste, mais la jurisprudence ne le montrait que trop. À savoir cette jurisprudence de faveur. Et puisque le Conseil se refuse à être transparent, et Laurent Vallée m'a bien affirmé son refus de publier les portes étroites, sous des prétextes complètement spécieux, et élaborer une claire doctrine libérale, on peut clairement soupçonner les portes étroites. Je voudrais d'emblée préciser ma position ici. Le fondement de ces interventions est à mon sens tout à fait justifié. Elle procède, selon moi, de l'exercice du droit de pétition reconnu à chacun devant toute autorité publique. C'est donc une technique tout à fait normale. Cependant, ce sont ces modalités que je critique. Je verrai d'abord ce que sont les portes étroites, quelles justifications éventuellement elles peuvent avoir. Ensuite, j'essaierai de conjecturer l'effet qu'elles peuvent avoir sur la neutralité du juge et ce qu'elles révèlent de notre système juridique. Mais d'abord, de quoi parle-t-on ? Il faut bien constater que l'on parle de quelque chose qui n'existe pas. Vedel utilise ainsi une formule délicieuse. On ne peut parler d'une procédure au sens technique du mot. Non, effectivement, pour désigner une procédure secrète devant une instance qui se présente comme un juge, on a du mal à parler de procédure. Et pourtant, il s'agit bien d'une procédure, la procédure dite des portes étroites devant le Conseil constitutionnel, baptisée ainsi par Georges Vedel, est une procédure informelle qui permet à toute personne, évidemment en connaissant l'existence, de communiquer au Conseil son avis sur la constitutionnalité d'une loi qu'il s'apprête à examiner. Cette procédure n'est pas inconnue, puisqu'elle fait l'objet de nombreux commentaires de la part des membres eux-mêmes, de Vedel évidemment en particulier, mais aussi d'éminents secrétaires généraux du Conseil comme Olivier Schramek ou Marc Guillaume. Entre parenthèses, on trouve dans la presse des traces d'une procédure similaire devant le Conseil d'État en formation administrative. Les délibérations du Conseil font aussi apparaître parfois l'agacement de certains membres après des coups de fil incessants. Alors, est-ce que ces coups de fil rentrent dans la procédure des portes étroites ? On en doute. On retiendra uniquement la procédure écrite que prend cette forme. Une fois dit qu'il s'agirait d'une procédure écrite, elle peut prendre plusieurs formes. D'une simple lettre, d'insultes ou de menaces, comme le Conseil en a reçu beaucoup lors du mariage pour tous, qui semble constituer le sommet en matière de nombre de portes étroites reçues, à la forme la plus aboutie, à savoir la consultation d'un professeur de droit public ou privé. Le nom de Jean Foyer revient beaucoup, notamment au moment de la loi sur l'IVG, ce qui n'étonnera personne. La mention des professeurs de droit me permet justement d'aborder un autre point sur la neutralité. C'est la neutralité de la doctrine face à ses intérêts qui va formuler ses intérêts de façon juridique devant le Conseil dans les portes étroites. On voit ainsi, dans la délibération sur la décision de nationalisation, que Pierre Delvolvé, le grand prêtre de la conférence d'agrégation et de la rigueur juridique, sauf quand il s'agit de mariage ou d'insémination post-mortem, justifie l'inconstitutionnalité des nationalisations au motif que, je cite, « l'entreprise qui est nationalisée doit nécessairement acquérir un caractère de service public pour répondre aux exigences constitutionnelles. » Donc la loi serait inconstitutionnelle. Je ne sais pas si Pierre Delvolvé croyait vraiment à son argumentation. Vedel n'a pas l'air d'y croire beaucoup puisqu'il l'écarte immédiatement. Mais la question est bien jusqu'à quel point l'absence de neutralité de la doctrine influence la neutralité ou l'espoir de neutralité du juge. D'ailleurs, la récente commission mise en place par Laurent Fabius pour réfléchir au statut des portes étroites est présidée par un éminent collègue qui a accepté cette présidence alors même qu'il est en conflit d'intérêts. En même temps, comme un ami me l'a dit, c'est un bon moyen de maîtriser et l'offre et la demande. Alors, quelles sont les justifications de cette pratique et que peut-on en penser ? Les justifications sont de deux ordres, la nature du contrôle et le fait qu'elle matérialise le droit de pétition en l'absence de contrôle a posteriori. C'est ce que disait Vedel, en tout cas. Vedel nous dit, à la lettre, cette procédure d'instruction n'existe pas, justement parce qu'il ne s'agit pas d'un contentieux supposant une opposition de prétention, mais seulement une troisième lecture de la loi, faite du point de vue constitutionnel et en termes de pur droit objectif. Le Conseil est censé se borner à une confrontation entre la loi qui se traduit par un pur travail de réflexion juridique. Bon, Vedel a certainement lu Kant et Kelsen, mais ici j'aimerais plutôt faire un détour par Nietzsche et faire un peu de droit à coup de marteau. Pur droit objectif, pur travail de réflexion juridique. On a plus l'impression d'être chez les Parnassiens, chez Wilde, l'art pour l'art, le droit pour le droit, que vraiment dans la réalité. Il n'est pas nécessaire de s'étendre plus longtemps sur ce qu'on peut penser de cette affirmation. Il me semble que ce que cela révèle, c'est ce que c'est tout juriste de common law, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération juridique pure, justement, et qu'il n'y a pas d'opération juridique sans identification et confrontation des intérêts. Autrement dit, ce que révèlent les portes étroites, c'est précisément le mythe qu'essaye de nous vendre Georges Vedel. Le juge ne peut penser qu'une fois les intérêts matérialisés par des droits par notamment des droits subjectifs formulés et matérialisés. En outre, le grand grief, évidemment, que l'on peut formuler à l'égard de ces portes étroites, c'est qu'elles ne sont pas communiquées au gouvernement qui est chargé de défendre la loi devant le Conseil constitutionnel. Évidemment, il y aurait beaucoup de commentaires à faire rien que là-dessus. C'est le cas aux États-Unis, où c'est le gouvernement qui va défendre la loi qui peut être une loi avec laquelle il n'est pas d'accord. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Obama n'a pas voulu défendre la loi DOMA devant la Cour suprême, loi qui refusait le bénéfice de certaines déductions fiscales aux couples de même sexe. Vedel semble regretter, en tout cas percevoir légèrement, que l'absence de publicité pose un problème. Je ne résiste pas à reprendre son argumentation délicieuse. Les membres du Conseil ne peuvent pas s'interdire telle ou telle lecture, nous dit-il. En outre, dans certains cas, des consultations juridiques sont rédigées par d'éminents juristes. Donc, nous dit-il, il serait coupable, au regard de son devoir d'information, de ne pas les lire. Mais alors, qu'en est-il, justement, de la contradiction ? Et c'est là que, heureusement, la chouette de Minerve veille au Conseil constitutionnel. Vedel nous dit « La sagesse du président y supplée en demandant des informations complémentaires lorsque l'information risque d'être unilatérale. La protection du contradictoire repose donc sur la sagesse du président Jean-Louis Debré, quand c'était lui, qui maintenant va à la télé. Lorsque le Conseil fait droit ensuite à une prétention, il n'en fait pas mention, mais là, nous dit Vedel, et là j'adore, on peut le savoir par la presse. C'est la partie la plus drôle de son texte, tant il est vrai que Paris fonctionne ainsi. Les portes étroites sont un excellent exemple de parisianisme juridictionnel. C'est secret, c'est informel, mais tout le monde le sait. C'est donc la rumeur parisienne, et il est vrai que la rumeur parisienne fonctionne, qui fait office de contre-pouvoir, et c'est dit par un des spécialistes du droit constitutionnel français. C'est la transparence par la rumeur, le tout Paris contre le catimini juridictionnel, en quelque sorte. Mais que l'on se rassure, ça ne changera pas. Laurent Vallée me l'a indiqué, et Denis de Béchillon préside la commission chargée d'y réfléchir, et il est résolument contre. Maintenant, les portes étroites ont-elles un effet? C'est là où c'est le plus difficile, évidemment. Quels indices avons-nous? D'abord, des juges eux-mêmes. Pierre Jox m'a indiqué qu'elles en avaient. Olivier Dutheillet de la Motte l'a écrit. En effet, et spécialement si elles sont rédigées par des universitaires, elles permettent une formulation juridique des différents intérêts en présence. Mais peut-on en dire davantage? L'activisme du Conseil a été présent, évidemment, sur le front de la liberté d'entreprendre, du droit de propriété et particulièrement dans le domaine fiscal. Or ici, on a des faisceaux d'indices assez clairs. Si l'on prend par exemple la censure retentissante de la loi de finances pour 2013, la fameuse censure de la taxe à 75%. On a peu de doute de l'importance des portes étroites. Marc Guillaume indique d'ailleurs que Guy Carcassonne avait envoyé une consultation précisément sur la question de l'impôt confiscatoire, et c'est sur ce point que portent quelques censures. Oui, pour le Conseil constitutionnel français, 75% c'est mal, mais 68% c'est bien. C'est du grand droit. C'est du grand droit. Cette décision est évidemment une prise de position politique, et qui montre que le Conseil constitutionnel lit manifestement davantage Guy Carcassonne que Thomas Piketty. On trouve d'autre part l'influence d'autres lobbies dans d'autres jurisprudences, notamment on est content de savoir sur l'audiovisuel. Dans une décision de 2000, le Conseil constitutionnel nous explique que la transparence nuit à l'intérêt général. Après 50 ans de réformes sur la transparence, dans le monde entier, ben non. Et ça a donné, évidemment, le désastre qu'on a connu au moment de la nomination de Delphine Ernotte au Conseil constitutionnel. On a aussi d'autres exemples concernant les assurances. Mais après tout, ce ne sont que des conjectures. Alors, qu'est-ce que ça révèle maintenant de notre système, ce qui me semble maintenant plus intéressant? Comme je l'ai dit, ce que ça me semble révéler, c'est qu'il n'y a pas de contrôle abstrait, et ça me semble révéler l'inanité de ce contrôle a priori dans un délai qui rend tout travail sérieux. L'objection immédiate que l'on a pour de la part des gens du Conseil constitutionnel pour une plus grande motivation, etc., c'est toujours ce délai. Pour un juriste de common law, ce type de contrôle, et même de droit allemand d'ailleurs, ce type de contrôle est tout simplement impensable car il n'y a pas, comme je l'ai dit, d'opération intellectuelle possible sans cristallisation forte des intérêts. C'est la raison pour laquelle l'intérêt à agir en contentieux constitutionnel aux États-Unis est si fort, c'est que les juristes ont besoin là-bas véritablement d'une identification de ces intérêts. Ce mythe, très certainement issu de cette idéologie que l'on voit à l'œuvre dans le recours pour excès de pouvoir et dans son intérêt à agir aussi extrêmement large par rapport à d'autres pays, nous fait penser, semble manifester l'idée qu'on peut réfléchir à la légalité d'une norme dans le ciel des idées. En d'autres termes, on met encore en place un système qui semble en apparence neutre, platonicien, en théorie, et on se retrouve avec une jurisprudence des intérêts, le livre de Jean-Louis Debré et d'anciens juges en cabinet d'avocats. Cette pétition de neutralité que l'on retrouve partout en France manifeste, me semble-t-il, une profonde naïveté dans notre système. Ensuite, l'étude des portes étroites permet de comprendre, quand on regarde la manière dont elles sont mobilisées, utilisées, qui a le pouvoir dans le Conseil. Ce ne sont certainement pas les juges, me semble-t-il, c'est la partie administrative, autour du secrétaire général et de ses services, qui détient véritablement le pouvoir. Et précisément, moins ils sont juristes, et évidemment, plus le pouvoir de cette partie du Conseil est forte. Mais aussi que le Parlement, d'ailleurs, filtre peut-être trop les intérêts. Normalement, c'est au Parlement, dans sa saisine, ce serait au Parlement d'exprimer l'ensemble de ses intérêts et de leur donner une formulation juridique, ce qui manifestement il ne fait pas, puisque cette procédure existe. Enfin, dernier élément, certainement le besoin d'une profonde réforme de notre système qui bénéficie encore et toujours de ce mythe du juge neutre, bienveillant, bouche de la loi, élaboré autour de la Révolution française. Le contrôle a priori, surtout dans une période de déchaînement législatif, me semble une aberration, mais plus profondément, c'est plutôt la motivation courte et l'absence de personnalisation des jugements qui me semble être la cause et le fait qu'on se trouve dans cette situation. En d'autres termes, mettre fin résolument à la neutralité apparente que confère la collégialité pour obtenir peut-être une neutralité plus effective. Merci.
Merci beaucoup Thomas pour cette intervention vigoureuse, pour le moins. Il y aurait beaucoup de questions, on va évidemment avoir un temps pour les questions.